Bonsoir à tout le monde et merci de votre présence à cette rencontre autour du livre de Jean-Marie Tixier, Les cartèlements algériens, des éditions libertaires. Merci à la librairie Mola de son accueil. Cette rencontre, elle rentre dans le cadre d'un partenariat entre le boulevard des Potes et la librairie Mola. Très rapidement, dire que Jean-Marie Tixier donc, est docteur d'État en sciences politiques, maître de conférences à Bordeaux 4. Alors, il y a sévi de nombreuses années. Actuellement, il est un jeune retraité, président du Jean Eustache, cinéma fort connu sur l'agglomération bordelaise, donc à Pessac.
Le meilleur.
Oui. Oui, un des plus...
Enfin, on a un concurrent privé, mais...
mais en tous les cas, cinéma dynamique, assez volontaire sur un certain nombre de sujets. Festival du film d'histoire est un moment important. L'université populaire à laquelle tu contribues très fortement est aussi un temps très fort. Donc voilà, Jean-Marie Tixier est un militant, on va dire, associatif, essentiellement sur les sujets culturels et plus précisément sur les sujets du cinéma. Alors avec Jean-Marie, c'est aussi dans ce lieu-là, chez Mola, qu'on s'est rencontrés il y a quelques années lors de la présentation du livre de Boualem Sansal, Les serments du barbare. Voilà, Les serments barbares. Donc ça a été un moment assez important, un moment aussi qui a posé les jalons de notre rencontre et notre amitié avec Jean-Marie. Et puis ensuite, on a ce livre est préfacé par Benoît Rey. Et on a eu l'occasion d'accueillir Benoît Rey lors de la réédition de son livre Les Égorgeurs, qui date de 61 et qui a été réédité en 99. Voilà, donc tout ça a bien un lien. Il y a comme tu dis, un entrelacement à toutes ces histoires-là. Alors, rapidement vous dire que c'est un livre relativement riche, dense, très émouvant, parce que Jean-Marie Tixier est un homme très, très pudique, ne parle pas de lui. Et là, il se dévoile un peu, mais d'une manière émouvante et aussi à chaque fois en problématisant même les situations personnelles, familiales, en les mettant en perspective par rapport à des questions de société. Un livre très, très foisonnant parce que beaucoup de sujets y passent. Jean-Marie Tixier est animé par les questions de société d'une manière générale, plus particulière celle qui ancre son histoire et sa vie avec l'Algérie. Et donc, il y a toute une série de sujets importants qui sont présents. Alors, le livre est construit sur deux parties. Une première partie qui est une partie qui est intitulée Fragments mémoriels. Et donc là, on a une dimension historique et personnelle. Hein. Et puis une deuxième partie qui s'intitule Traces et écarts. Et effectivement, là, on a des thèmes de l'école, des discriminations liées à la nationalité, de la culture. Hein, en Algérie, prise sous le prisme, sous l'angle du cinéma, les pieds noirs, les harkis, les appelés, les haragas, ces hommes qui essayent de quitter la situation terrible dans laquelle ils sont pour venir en Europe, le sujet des anciens combattants, l'histoire des partis politiques algériens, hein, le FLN, le MNA, le PCA, le PCF et le FIS. Hein, donc il y a toute une richesse historique. Alors peut-être apporter un élément de précision. Jean-Marie est quelqu'un de très méticuleux. Ça veut dire qu'il n'avancera pas une idée, une date, un contexte, une situation sans avoir pris toute une série de précautions, entre guillemets, scientifiques. Donc, de ce point de vue-là, il y a toute une richesse de dates, d'événements qui ramassent un peu les éléments historiques, mais d'une manière assez forte et assez pertinente. Alors, deux fils rouges, moi, j'ai trouvé au livre, qui sont un thème, là aussi, qui est très cher à Jean-Marie Tixier, qui est celui de la réconciliation. Hein, c'est le sujet récurrent qui traverse ce livre et qui traverse aussi toute la réflexion plus globalement de Jean-Marie Tixier, et aussi le thème du cinéma. Alors, si vous voulez avoir une connaissance presque parfaite de ce qui est sorti comme film sur l'histoire franco-algérienne, vous avez là, sur cette deuxième partie, un excellent topo là-dessus, qui est animé parce qu'effectivement, c'est les moments que Jean-Marie Tixier a animé autour d'un certain nombre de films. Henri Alleg,
Le rêve algérien.
Le rêve algérien, qui est un superbe document, témoignage sur comment cette histoire aurait pu être aussi fraternelle et citoyenne. Voilà. Et puis, avant de te passer la parole, Jean-Marie, dire que la couverture est réalisée par un grand monsieur, hein, Jean Ferrandez. Jacques Ferrandez, pardon, et qui vient d'éditer d'ailleurs une bande dessinée sur Camus.
L'étranger.
Hein, L'étranger. Hein, il a repris cette anthologie aussi, hein, de l'histoire de l'Algérie. Voilà, donc je pense que la couverture résume bien l'approche que tu as dans ce livre-là. Alors voilà, pourquoi l'écartèlement algérien ?
Alors pourquoi le titre ou pourquoi le livre ? Alors,
pourquoi le titre d'abord et ensuite ?
Non, pourquoi le livre et après pourquoi le titre ? Pourquoi le livre, ça vient d'abord parce qu'en fait, c'est une opportunité, parce que j'ai une vieille complicité avec, alors, je ne sais pas comment on dit, le responsable, le boss, le PDG des éditions Libertin. Enfin, j'essaie. Bon, bref, j'étais à la fac avec lui et donc il est venu chez moi à Alger. Donc c'est une vieille amitié. Et cet été, il m'a proposé de publier un truc. Il m'a dit, j'ai jamais rien publié de toi, hors les articles. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Et puis après, la nuit portant conseil, je lui ai dit, mais on pourrait faire un truc sur l'Algérie. Il m'a dit, mais bien sûr, c'est le 50e, c'est moi qui lui ai dit, si vous vous souvenez sûrement, mais enfin, c'est le 50e anniversaire, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, l'idée a germé, et très rapidement, il a fallu aller vite, il a fallu produire pour être dans les temps et être avant le 31 décembre, être édité, ce qui a été à peu près fait. Donc, comment ça s'est fait ? J'ai d'abord réuni tous les articles que j'avais publiés à droite et à gauche autour de l'Algérie, autour du cinéma algérien. Alors, c'était très, très, très divers en termes de publication, mais ça va donc du monde libertaire dans lequel je collabore depuis 1979 et jusqu'aux éditions universitaires en 2012. Hein, donc, ça va de 1979 à 2012. Il y a donc une série de textes qui ont été écrits sur l'Algérie et essentiellement sur le cinéma algérien. Enfin, sur le cinéma qui a un rapport avec l'Algérie. Par exemple, Hors-la-Loi ou Indigène, ce sont des films français, mais qui ont un lien direct avec l'Algérie. Donc, c'est la deuxième partie. Donc, c'est facile à voir ce que ça peut être en termes de contenu. Je ne les ai pas toilettés, j'avais pas le temps. Et puis surtout, je trouvais que c'était intéressant de les donner tels qu'ils avaient été publiés. Et donc on peut voir, c'est intéressant l'écrit, hein, parce que c'est coulé dans le bronze, on peut voir l'évolution ou ce que j'ai pu dire en 79 et ce que j'ai pas vu, je me suis trompé gravement par moment, enfin bref, c'est là quoi. Hein. Et pour faire un pendant de ça, il m'a semblé important. Je ne perds pas de vue l'histoire de la couverture, vers un pendant d'autobiographie, parce que j'ai une expérience. Alors l'expérience, bon, et on peut se méfier toujours des expériences et toujours de la mémoire. Elle est toujours partielle, elle est toujours élective. Mais enfin bon, ça me paraissait important de dire d'où venait la parole qui était dans la deuxième partie, c'est-à-dire comment j'ai été construit, comment c'était pu se construire ce point de vue, et comment on pouvait aller en faire va-et-vient. J'ai relu le texte en allant à Toulouse le présenter dans le train. Donc, j'ai pu le relire. Effectivement, quand on lit les deux en suivant, on peut voir les relations entre ce que j'ai vécu et ce que je peux écrire en tant que, tu as dit, universitaire. Oui, par moments, quand c'est les actes d'un colloque, c'est tout à fait universitaire. Voilà. Donc, il se trouve que mon expérience, et je terminerai là-dessus sur comment j'ai construit le truc, elle est double, puisque moi, je suis né en Algérie. Donc, communément, je suis un pied noir, même si c'est compliqué de dire ce que c'est. Mais bref, je suis né en 49 et j'ai quitté l'Algérie en 64. Donc, je suis resté 14 ans en Algérie. Et puis après, je me suis dit quand même qu'il fallait que je revienne pour me voir, mais pas comme un touriste. Ça ne m'intéressait pas. Donc, je suis revenu travailler en Algérie pendant 4 ans, entre 77 et 81, qui apparaît aujourd'hui malheureusement comme une période bénie pour mes amis algériens. Voilà, donc ces deux moments de ma vie m'ont permis donc de raconter des petites histoires anecdotiques, mais avec cette idée qu'il fallait que je dépasse évidemment l'anecdote et surtout le nombrilisme qui ne m'intéresse absolument pas, pour aller vers une petite réflexion. Et à chaque fois que j'ai fait, que j'ai pu, c'est pas du tout exhaustif. Voilà. Donc c'était... j'ai envoyé ça à mon petit camarade. Mon camarade m'a dit « c'est super ». Mais c'est mon camarade. Donc, quand Ferrandez... donc, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie, effectivement, Ferrandez, c'est la référence, puisque il a fait les carnets d'Orient, qui est une sorte de grande saga de l'histoire de l'Algérie française, hein, depuis 1830 jusqu'à la guerre d'indépendance, en une dizaine de volumes. Donc, que j'admire beaucoup. Et donc, Ferrandez a été le premier lecteur, en quelque sorte, non impliqué. Mmh. Et le fait que, me connaissant pas, et évidemment, il est aussi, il a les droits d'auteur du même type que les miens, c'est-à-dire zéro. Hein. Donc, le fait qu'il ait accepté de donner son aval, ça a été quelque chose, évidemment, pour moi, d'important. Voilà. Alors, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il peut faire comme couverture ? À partir d'un truc aussi hétéroclite, en me disant il faut être fort quand même, voilà. Et il est évidemment très fort, hein. C'est en ça qu'il est, je dis souvent, ce qu'il y a de mieux c'est quand même la couverture dans le livre, mais bon, il n'y a pas que ça, c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment géniale, sans prenant les termes, parce que elle résume tout quoi. Hein. Elle résume quelque chose qui est de l'ordre fondamental pour moi, en tant qu'enfant. Parce que je suis né en 49, donc je prends conscience des choses après 54. Hein. Vous l'avez vu, la couverture, le petit garçon, alors il fallait signifier un petit français, donc on l'a fait blond, alors que moi, on me surnommait Mokro à cause de mon teint. Hein. Donc j'étais pas très blond, mais enfin bon, bref. Il fallait un petit français, quoi, un petit européen dans la rue d'Alger, enfin la rue d'Oran ou la rue de n'importe où, on ne sait pas d'où. Et en revanche, il y a devant lui un symbole, hein, un symbole qui est l'arabe, avec son turban, etc. Mais il est sur impression, en quelque sorte. Moi, je dis c'est un spectre, quelque part. Hein, c'est quelque chose qui hante la rue. Et donc, ce petit garçon, il se pose une question, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Je ne suis pas tout à fait à ma place. Et c'est ce que j'ai perçu très, 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 très tôt. Voilà. Donc, en me disant, qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Parce que qu'est-ce que c'est que cette guerre qui m'a accompagné dans mon enfance, avec tout ce qui ça a pu trimballé d'horrible. Qu'est-ce que c'est que cette guerre et quelle est la place qu'on peut y occuper, quoi. Hein, voilà. Donc c'est le départ du livre, c'est ça. Quand tu dis réconciliation, oui, je termine là-dessus. Mmh. C'est après avoir publié le livre que je me suis dit, mais c'est bien sûr. Hein, je regarde Carmen, c'est le traité franco-allemand. Traité de l'Élysée, 63, mais on l'a préparé en 62. Et tout d'un coup, je dis, mais c'est bien sûr, vous savez, le truc, le fil a coupé le beurre, quoi. Comment ça se fait qu'on est capable de signer en 62? Et alors, pour le signer en 63, Adenauer vient en France. Il vient entre le 3 et le 8 juillet, c'est-à-dire au moment où l'Algérie obtient son indépendance, puisque c'est les festivités le 5 juillet. Hein. Donc en plein milieu de ces festivités, avec tout ce que ça a pu aussi avoir de festif, mais aussi d'horrible, le 5 juillet, que faisait De Gaulle? Il recevait Adenauer. D'ailleurs, l'Algérie, c'était derrière lui, il s'en était débarrassé. Bon, bref, peu importe. Tout état de cause, on était capable de signer avec l'Allemagne, avec lequel on avait un passif quand même lourd. Je dis, pas moi, hein, évidemment, hein, mais disons, formation sociale. Hein, voilà, France était capable de signer avec l'Allemagne un traité d'amitié. Puis on sait, tout le monde l'a vu, en tout cas ceux qui s'intéressent à l'Allemagne, les discours de Gaulle en Allemagne en septembre sur le grand peuple allemand. Tout ça, donc on est capable de le faire quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, 44 ans après la Première, donc avec des millions de morts entre nous, on est capable de le faire. Voilà. Et on est 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, et on n'est toujours pas capable de réconciliation. En termes de personnes, oui, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des amis algériens et ça ne me pose aucun problème. Mais en tant que formation sociale, on n'est pas capable. Et alors, il y a une question qui est... si vous lisez mon texte, vous verrez par moments dire bah, 40 ans après, il est temps, parce qu'avec le temps qui passe, 40 ans, il est temps de faire la paix. Je dis 50 ans après, il est temps de faire la paix. Et puis, j'aimerais pas qu'on attende 70 ans, parce que ça fera peut-être un peu lourd pour moi, pour faire la paix. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait la paix pour pouvoir retourner vivre avec mes petits camarades en Algérie, qui me disent toujours « Oh, tu peux attendre un peu quand même avant de revenir. Hein ?» Depuis que je suis parti en 1981, j'avais toujours dit que je reviendrais en Algérie voir mes amis, mais ils me disent toujours « Il vaut mieux attendre. » Eh bien oui. Donc, j'y retournerai que si j'ai besoin d'y travailler, si j'étais appelé pour une mission, mais pour aller faire du tourisme, pour aller faire des vacances, ce n'est pas l'Algérie que je vais choisir. Mmh. Voilà. Donc on n'y est pas encore.
Alors, juste pour prolonger ce que tu dis là, ouais. Tu fais référence à Jacques Berck.
Oui.
Et donc, tu fais référence à l'entrelacement.
Oui.
Comment...
C'est une des raisons pour continuer, parce voilà. Que sur la filiation, enfin, le parallèle avec l'Allemagne, quand j'étais tout petit, je suivais des cours d'histoire, et un jour, j'ai dit à mes parents, mais alors... le FLN, c'est les résistants, et nous, on est les Allemands. Ça s'est passé moyennement dans... Mais mon père était plutôt... Mais bon, voilà. Et quand on disait à De Gaulle, après tout, les résistants, c'est le FLN, il disait, oui, mais moi, je ne suis pas marié avec une Allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrelacement, il est là. C'est-à-dire que les fondateurs du nationalisme algérien, que ce soit Ferhat Abbas ou Mesli Hadj, était marié avec des Françaises, que même, on l'a appris plus tard, parce que ça s'est tué en Algérie, évidemment, on a des deux côtés des effets miroirs épouvantables, hein, c'est-à-dire qu'on se renvoie les trucs. Je dis, en Algérie, on ne va pas dire que celle qui a cousu le drapeau algérien, elle s'appelait Émilie Buscan, Émilie, et qu'en plus, elle était anarchiste. Ça ne va pas le dire, ça, de toute façon, surtout ce gros mot-là. Bon, tu vois, aux éditions libertaires, nous, on a même peur, tu vois, du mot anarchiste, puisqu'on dit libertaire. Mais bon, quelque part, la femme des Messaliades, donc l'entrelacement, il est là. L'entrelacement, il est là. Et aujourd'hui, pour reprendre, faire un autre bond en avant, aujourd'hui, on a un président d'Algérie qui est hyper nationaliste et qui bouffe du français, mais quand il est malade, il va au Val-de-Grâce.
Il va se faire soigner par les militaires français. Alors, c'est quand même quelque chose. Et moi, tous mes copains algériens, alors il y en a qui sont très militants, qui restent en Algérie, mais j'en ai d'autres. Mon copain d'enfance, il est à Paris. Il est à Paris parce qu'il est médecin, il est gynéco en plus. Sa place, il ne la voit plus en Algérie. C'est terrible, l'entrelacement, il est là.
Hein oui. Donc il n'y a pas une histoire qui ne lie pas à un moment ou à un autre l'histoire des familles, en tous les cas, la France à l'Algérie.
C'est-à-dire qu'effectivement, Benjamin Stora a d'abord, c'est lui aussi un fils d'Algérie, on va dire, hein, pour ne pas employer des mots. Parce que je me suis fait engueuler parce que je disais que Stora était pied noir. Et on me dit, ah, pied noir, non, est un indigène parce qu'il est juif. Enfin bon, oui, c'est vrai, mais Stora, il se pense pied noir. Tu vois, déjà, on est dans les trucs, c'est pour certains pied noir, très pied noir, du côté de Perpignan, tout ça. Stora, c'est un Israélite, hein. Il ne mérite pas le nom de pied noir. Stora dit qu'en gros, il a fait le compte, on est à peu près 8 millions de Français avec une carte de machin, qui avons une relation avec l'Algérie. C'est-à-dire plus de 10% des Français ont une relation directe avec l'Algérie. Direct. Soit ce sont des anciens combattants qui sont allés, comme on est en France, la République, quand même, tout le monde y est allé. Personne n'y a échappé, on n'est pas aux États-Unis. Hein. Petit Bush, il a fait sa guerre du Vietnam, il a fait au Texas. Tandis que Chirac ou Rocard, ils sont allés. Ils ont fait leur service. Même si Rocard l'a fait dans les cabinets. Mais ça, bon, c'est un énarque quand même. Voilà. Donc tous les militaires, toute la classe d'âge, donc presque 2 millions de personnes. On a les pieds noirs et leurs descendants, fait 1 million et quelques, là, plus leurs descendants maintenant qui sont concernés. On a tous les Algériens qui sont arrivés dans les bagages parce que c'était des militaires ou parce qu'ils ont eu le pot en tant qu'harki d'avoir un officier qui les a sauvés, etc. etc. Toute l'immigration, et puis ses enfants, après avec le regroupement familial, etc. Donc ça fait 8 millions de personnes, ça fait plus d'un Français sur 10 qui est directement connecté à l'Algérie.
Entrelacé.
Oui, collecté avec des histoires bizarres, compliquées, etc. etc. C'est une histoire qui continue. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un film que je vous conseille qui s'appelle La Traversée. C'est un documentaire d'une femme qui a fait 25 allers-retours entre Alger et Marseille. Et avec sa caméra, elle a monté un film qui est très intéressant sur la parole de ces gens et de ces gens qui font les allers-retours et qui ne savent plus. Et c'est bien parce que c'est un entre-deux, la Méditerranée. Mmh. Et donc, ils ne savent plus s'ils sont d'un côté ou de l'autre. De la Méditerranée. Voilà. Oui. Mais c'est très bien comme film.
Alors, peut-être une dernière question avant d'ouvrir à l'échange. Sur ta première partie, tu parles un peu de toi, donc t'es fils d'enseignant.
Oui.
Donc le sujet, la question de l'école, pour toi, est un sujet important. Donc, tu restitues là aussi des fragments, des éléments de mémoire et d'histoire de comment, comment fonctionnait l'école, les petits Français, les petits Arabes.
C'est bien que tu poses cette question, parce que, si tu veux, je termine aussi sur l'école, parce que je trouve que le dernier article que j'ai publié, c'est un article que j'ai publié dans des actes, donc aux presses universitaires. En tant que personne ne le lit, donc c'est bien si au moins on le lit par là, aux presses universitaires de Rennes, et c'était sur un film algérien qui s'appelle « La Chine est encore loin ». Et La Chine est encore loin, c'est un film extraordinaire, mais qui est difficile, et donc que personne n'a vu, ou peu de gens l'ont vu, hein, c'est normal. Mais c'est dommage aussi. Et ce film raconte l'histoire de deux instituteurs, c'est un peu être et avoir, version algérienne, mais en plus fort. Parce que on pose sa caméra dans une école pendant une année et on tourne à partir de ce qui est montré donc sur ces deux instituteurs, parce qu'il y a un instituteur francophone et un instituteur arabophone, et c'est des instituteurs qui s'occupent de... Voilà. Mais on n'a pas choisi n'importe quelle école, on a choisi, le réalisateur est une petite école des Aurès dans laquelle il y avait un couple qui s'appelait Guy et j'ai bouffé son prénom, Monroe. Et malheureusement, Guy Monroe, qui était un instituteur communiste, a été tué le premier jour de la guerre d'Algérie. Donc voilà, on part de là. Et donc cette histoire d'enseignement, elle est très importante, bah, parce qu'elle m'intéresse, elle me touche, très importante parce que dans le film aussi, les instituteurs algériens d'aujourd'hui reprochent à la colonisation tout et son contraire. Mais ils ont raison des deux côtés. Tout en disant, en éduquant les petits Français, les petits Algériens avec le français, on les a acculturés, on leur donnait la. Voilà. Et puis en disant aussi, ils n'en faisaient pas assez. Et oui, c'est vrai qu'il y a un recensement en 1954, et sur l'ensemble des petits Algériens, il y en a 16% qui sont scolarisés. Par rapport à le caractère obligatoire. Ce qui est amusant, c'est que les pieds noirs aussi sont moins scolarisés que les Français de métropole, ce qui enlève un petit peu l'idée que toujours les pieds noirs, c'est des riches colons, etc. Non, c'est aussi des pauvres, très pauvres, qui ne vont même pas à l'école. Quoi. Et ils sont moins scolarisés que les petits Français. Mais ils sont scolarisés à 80 et quelques. Les petits Français sont. J'ai les chiffres du recensement. Et ça, c'est le recensement français. Hein. C'est pas. Voilà, ce sont des chiffres auxquels on peut croire. Donc le recensement fait 16% d'Algériens scolarisés. Hein. Alors, c'était très, très faible. Hein, mais il a fallu lutter, effectivement. Et c'est ça toute l'ambiguïté. Il a fallu lutter pour scolariser les petits Algériens parce que ce qu'on va appeler le colonna, c'est-à-dire la classe dominante, n'avait pas envie qu'on mette des idées biscornues dans la tête de leurs indigènes. Hein. Et c'est vrai que ça a servi aussi comme ferment. Hein, voilà. Donc oui, mon père, terminé, c'est intéressant ça, c'est parce que c'est toujours la différence entre mémoire et histoire, c'est qu'à chaque fois que je présente des choses, ça fait longtemps, j'ai une vieille expérience de salle de cinéma à présenter des films autour de l'Algérie, c'est un peu. Quand je dis souvent, quand il y a un arabe, c'est pour moi. Hein, c'est-à-dire que j'y vais, ça me revient, entre guillemets. La semaine dernière, j'ai fait mille feuilles avec Nouri Bouzid. C'était très intéressant. Au Jean Eustache, là, on n'était pas très nombreux. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand je présente l'histoire, il y a des fois des gens, des pieds noirs, qui sont extrêmement choqués parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Donc, ça n'existe pas. Donc, mon père était enseignant dans l'enseignement B, c'est-à-dire l'enseignement des indigènes. Or, comme ça a été supprimé en 1949, et alors comment on dit la feuille de droit, j'étais la feuille de droit, je m'en excuse, on dit des jurés de droit, mais pas de fait, hein, de facto, ça a mis du temps, c'est pas parce qu'on. Donc ça a mis du temps, mais malgré tout, en 1949, c'était supprimé. Mais il y avait une école pour les indigènes, ça ne voulait pas dire, on n'était pas dans un système de ségrégation, apartheid, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des petits indigènes dans l'école française. Hein, mais il y en avait très peu, je veux dire, tout confondu en 1954, après l'abolition en mars 1949 de l'école de l'enseignement B, il y avait 16% d'indigènes qui étaient, je préfère le terme indigène, c'est un terme qui est, je sais, parce que j'en ai parlé avec mes amis algériens, qu'il y a des gens qui le vivent comme quelque chose de dur, hein, mais de violent même, parce qu'il y a eu aussi un code de l'indigénat. In fine, là aussi, toujours. je le préfère à musulman. Vous savez, le code de l'indigénat était lié à la religion musulmane. Mais quelqu'un qui se convertissait, on lui disait « Ah ben non, tu restes quand même dans le code de l'indigénat. » Parce qu'il y a un arrêt célèbre en 1903 sur quelqu'un qui s'est converti et qui dit « Je suis plus musulman, je suis chrétien, je veux plus être dans le code de l'indigénat. » On lui dit « Non, non, reste à ta place. » Donc voilà, parce que le code de l'indigénat, c'est quand même une horreur. En termes de droit, hein. On a parlé de monstres juridiques, parce que même le droit français classique, même pas le droit de la République, il était complètement en dehors de ce droit-là. Donc voilà, l'histoire de l'école, c'est central, parce qu'effectivement, ça joue là-dessus. Bon, puis je suis né dans une école, et je dédie mon livre à trois instituteurs. Monsieur Germain, bien sûr, instituteur qui a permis à Camus d'avoir son Nobel. Mouloud Feraoun, qui est un grand instituteur qui a été assassiné par l'OAS. Et William Hassan. Alors là, vous ne le connaissez pas, mais William Hassan, c'était le copain de mon père. Et mon père et William Hassan étant au SNI, au Syndicat National des Instituteurs, ont eu tous les deux l'honneur d'être condamnés à mort par l'OAS. Le malheur, c'est que William Hassan a été tué dans son école devant ses élèves et qu'aujourd'hui, il y a une école qui s'appelle William Hassan. Mais en Algérie, on a enseigné la non-histoire et je sais que les petits Oranais ne savent pas qui est William Hassan. Un juif, vous rendez compte. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai pris un dans les trois. Voilà, pas qu'il est jaloux. J'aurais pu mettre Guy Monroe aussi.
Peut-être, je ne t'ai pas posé cette question, Jean-Marie, mais elle me vient là. Est-ce que tu envisages de le présenter en Algérie, ton bouquin ?
Si on m'invite.
Hein ? Si on t'invite.
Si on m'invite, ça y est. Oui, bien sûr.
Hein, ça peut être.
Mais je suis sûr que. Alors, il y a plein d'Algériens qui vont. Je veux dire, il y a plein de gens qui peuvent s'y retrouver. Ça, c'est aucun. Voilà, ça, pas de souci. Voilà.
Bien, bah, écoutez, merci. Merci à vous de votre présence. Et puis, merci à Jean-Marie Tixier d'avoir accepté de partager avec nous ces réflexions autour de l'écartèlement algérien. Et bonne soirée. Donc, tant à la dédicace.